Vous travaillez dans l'audiovisuel? Alors ce podcast est fait pour vous.
Tu ne sais pas ce que tu veux!
Enfin, je fais un raccord dans le mouvement, espèce d'idiot!
Je suis Jonathan Elalouf et vous écoutez Au Générique, le podcast qui parle de tous les métiers de la création audiovisuelle.
Si la production vous dit non, vous dites le metteur en scène a dit oui.
Un mardi sur deux, je donne la parole à un ou une professionnelle pour vous faire découvrir de manière authentique son parcours, ses anecdotes et son métier.
Si on commence à avoir stabilisateur et tout, quand vous êtes dans une cage d'escalier qui fait un mètre de large, qu'il y a déjà deux tuyaux d'établis, qu'il y a les équipes qui montent, qui descendent, les victimes aussi qu'on est en train de descendre, vous imaginez bien qu'on ne peut pas se permettre d'avoir du matériel.
Ce podcast vous est présenté par Lightyshare, plateforme de location de matériel audiovisuel. Où que vous soyez, retrouvez tous les équipements dont vous avez besoin sur lightyshare.com.
En gros, on fait 200 reportages à l'année institutionnels et 250 interventions à l'année.
Et si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et pensez à nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Cela nous aide énormément. Bonne écoute.
Moteur ! Oh putain, moteur !
Bonjour Benoît.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir.
On peut dire que tu es un professionnel de l'image, pas comme les autres. Tu es depuis plus de 20 ans maintenant au sein de la très prestigieuse brigade des sapeurs-pompiers de Paris, de chef d'équipe incendie à responsable de la production audiovisuelle. Tu es ce qu'on pourrait appeler un soldat du feu, mais aussi de l'image, puisque la BSPP, c'est plus de 460 000 interventions dans l'année, mais aussi plusieurs milliers de vidéos et de photos. Le travail de ton équipe est diffusé dans le cadre de communication interne, mais aussi externe, puisque les sapeurs-pompiers de Paris ont une chaîne YouTube suivie par plus de 90 000 personnes avec de très nombreux contenus, allant de la création originale jusqu'au récit d'intervention, et comptabilisant tout de même plus de 21 millions de vues. De façon plus exceptionnelle, j'imagine, des images de ton équipe ont été incluses dans le dernier film de Jean-Jacques Hano, Notre-Dame brûle. Alors au-delà de la tragédie et de tout le travail que ça a demandé pour tes collègues, j'imagine que ça a été un grand honneur pour toi et ton équipe de voir vos images sur grand écran. Comment ça s'est passé ?
Oui, ça a été un grand honneur puisque forcément d'avoir nos images dans un film d'un réalisateur mondialement connu, c'est je pense la première fois que ça arrive. Pour nous, l'intervention en elle-même, ça reste une intervention de grande ampleur comme on a déjà pu faire auparavant, que ce soit avec les attentats, la rue Erlanger. Donc nous, l'intervention, on l'a vécue comme une intervention normale, mais c'est vrai que derrière l'ampleur médiatique que cela a pris, on n'a pas rarement eu l'habitude. Les derniers, ça a été pour les attentats, mais on n'avait jamais utilisé nos images pour un long métrage.
Ouais,
c'est vraiment la première fois. Et pour le coup, ils n'ont pas juste utilisé nos images pour avoir une idée de l'intervention et après refilmer derrière. Ils ont vraiment utilisé les images du cadreur et du photographe ce jour-là pour les insérer dans le film.
D'accord,
ils ont même utilisé des photos qu'ils ont animées par la suite. La photo notamment dans la nef juste avant que ça s'effondre avec les escarbilles qui tombent au-dessus de la croix. C'est une de nos photos et elle a été animée.
Ça doit être vraiment ça doit être surprenant de voir son boulot dans un film de fiction, parce que même si c'est la reprise d'un événement réel, c'est mise en scène, donc ça doit être...
Nous, on a été voir l'avant-première avec l'équipe et à chaque fois qu'on voyait nos images, on était trop contents, on se regardait, ah ça c'est la mienne, ça c'est la tienne. Donc ouais, c'était cool.
Génial. Alors du coup, pour revenir un peu en arrière, pour revenir un peu à tes débuts, qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de rentrer chez les sapeurs-pompiers de Paris ?
Un rêve de gosse. Hein. Je pense que tout pompier de Paris a ce rêve-là depuis des années. On rentre pas comme pompier, hein, que ce soit pompier de Paris ou pompier en France en général. On rentre pas dans ce métier comme ça parce qu'on voit la porte ouverte. Hein. C'est une vocation. C'est une vocation parce que ça demande énormément de sacrifices. Déjà physique, parce qu'il faut s'entraîner pour arriver au niveau demandé. Des sacrifices également familiaux, parce que notamment à la brigade, on fait quand même pas mal de gardes qui impactent la vie familiale. Quand on est sous-officier, on est logé en caserne. Ça sonne en pleine nuit dans les appartements. La famille vit brigade, quoi. C'est,
c'est un vrai engagement.
C'est un vrai engagement. Tout à fait.
Donc du coup, toi, tu as intégré les sapeurs-pompiers de Paris. C'était ta première brigade directement ?
Oui. Moi, j'ai failli être pompier volontaire juste avant, mais j'ai pas eu le temps parce que, en fait, je me suis engagé très tôt à 19 ans.
Okay.
J'avais à peine fini mes études, j'ai juste eu mon bac et derrière, j'ai enchaîné avec la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Donc j'ai même pas eu le temps de faire pompier volontaire et c'est parti quoi, 19 ans, très jeune quand même. Je me rappelle que ma mère était en pleurs de voir son fils de 19 ans partir à la brigade. Voilà, c'est ouais, je regrette rien et effectivement, je pense que ça j'ai vraiment trouvé ma vocation.
Mais c'est vrai que c'est un métier qui est dangereux. La phrase des pompiers, c'est sauver ou périr, c'est pas pour rien. Donc c'est vrai que c'est un vrai engagement par rapport à ça.
Oui, ça va un vrai engagement. Maintenant, c'est un métier dangereux, certes, mais pas plus dangereux que d'être militaire sur des théâtres d'opération, pas plus dangereux que d'autres métiers. C'est vrai qu'on a malheureusement des morts sur intervention, mais c'est pas non plus très souvent parce qu'on est entraîné pour tous les jours. Les mecs en caserne, ils s'entraînent, que ça soit physiquement. Ils répètent les manœuvres. Voilà, on est formé pour pas que ça arrive.
Ouais, bien sûr. Toi, tu as démarré donc à 19 ans, donc vraiment en secours à victimes, incendie. C'était, on va dire, la vie de pompier classique, entre guillemets, si je peux dire. Et aujourd'hui, en quoi consiste ton rôle ?
Alors aujourd'hui, donc effectivement, pendant 10 ans, j'étais en compagnie d'incendie jusqu'à la fonction de chef de garde. Et ensuite, pour des raisons personnelles, je me suis orienté vers le bureau communication que j'ai pu intégrer en tant que photographe. Donc, à mes débuts, j'étais simple photographe. Je faisais un peu de photos comme ça pour moi perso. Mais franchement, j'avais un niveau, quand je revois mes photos de l'époque, j'ai vraiment un niveau vraiment pas acceptable pour, je pense, rentrer dans le bureau communication. Mais j'ai eu cette chance. Et puis bah j'ai bossé pour m'améliorer, pour apprendre les techniques. Ensuite je me suis intéressé à la vidéo, je me suis formé moi-même. Et au fur et à mesure, j'ai réussi à être autonome, que ce soit dans la captation d'images que dans le montage. Ensuite, en 2015, on m'a confié la responsabilité du groupe Image, qui est composé de 15 photographes vidéastes.
Ok, c'est quand même une grosse équipe déjà.
Ouais, c'est une grosse équipe. C'est une grosse équipe parce que tous les jours j'ai un photographe et un cadreur de garde
qui sont prêts à partir,
qui est prêt à intervenir sur tout le secteur brigade pour de grosses interventions. Donc pour pouvoir armer un véhicule avec un photographe et un cadreur, il faut avoir du personnel.
Bien sûr.
Ensuite, il faut aussi répondre à toutes les sollicitations de l'institution. Hors opération. Donc, en gros, on fait 200 reportages à l'année institutionnels et 250 interventions à l'année. Donc, en tout, 450 reportages en moyenne par an. Pouvoir traiter les images parce que faut pas penser que on arrive sur intervention, on fait des images et notre travail s'arrête là.
Plié.
Derrière, il y a le tri des images, il y a l'indexation, il y a le catalogage.
Bah justement.
Il y a le montage, etc.
Avant de trop en raconter, toi aujourd'hui, donc si je comprends bien, tu n'interviens plus en secours à victime ou en incendie. Tu es vraiment 100% du temps sur la partie image et communication de la brigade.
Exactement, je suis à 100% au groupe image pour la communication de la brigade.
D'accord.
Maintenant, j'interviens toujours pour du secours à victime et des feux, mais en tant que cadreur-monteur. Et photographe.
D'accord.
Je n'interviens pas, effectivement, je ne suis pas là pour intervenir sur les gens, sauver des victimes, etc. Quoique ça nous est déjà arrivé.
J'imagine que dans
de
des
devoir
conditions...
De devoir poser le boîtier parce qu'il y a une victime à sauver et que les équipes, des fois, dans le contexte, ont des difficultés. Ça nous est déjà arrivé de poser le boîtier et d'aider les autres équipes à sauver les gens.
Ouais, bien sûr. Ça paraît logique de.
Pas que ce soit. Ouais, ouais.
C'est notre mission première.
Voilà, c'est notre mission première. Je pense que une vie ne vaut pas une image. Donc, pour les attentats, mes équipes ont aidé les secouristes. Il y a encore un an ou deux sur un feu d'appartement, pareil. À un moment, on a posé le boîtier, on a aidé les équipes à descendre les victimes. Voilà, on reste pompier avant tout.
Ouais, j'imagine. Alors du coup, quelles sont les missions aujourd'hui du groupe audiovisuel au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ? C'est quoi les grandes missions ?
Alors notre mission principale, c'est de nous rendre sur toutes les grosses interventions de la brigade, intervention d'ampleur ou particulière pour avoir ce qu'on appelle des images preuves, c'est-à-dire avoir des images qui montrent l'action du pompier pour ensuite communiquer sur les réseaux sociaux, donner également nos images aux médias pour éviter qu'ils se contentent d'images faites par des gens dans la rue, au portable, etc., qui peuvent être mal interprétées. Et ensuite, il y a aussi ce devoir de mémoire que l'on a pour notre institution, pour que dans le temps, on puisse raconter notre histoire.
Bien sûr. Et il y a aujourd'hui, j'imagine, des contenus à vous, des vidéos que vous utilisez aussi pour de l'éducation ou en tout cas pour de la formation interne.
Alors, nos vidéos, effectivement, nos vidéos et nos photos servent également à ce qu'on appelle les retours d'expérience. C'est-à-dire que suite à des sinistres, à des incendies, il y a toujours des enquêtes qui sont effectuées. On travaille en étroite collaboration avec le bureau qui s'occupe de ces enquêtes, puisqu'on leur fournit nos images pour qu'ils puissent ensuite faire leur retour d'expérience. Donc, ces retours d'expérience permettent de faire évoluer la doctrine opérationnelle, permettent également de sensibiliser les gens, les premiers intervenants, à ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc, ça permet effectivement de faire évoluer notre métier et pas seulement communiquer.
Ouais, bien sûr. J'ai vu d'ailleurs sur ton profil LinkedIn et puis sur la chaîne YouTube des pompiers de Paris une vidéo qui montre une nouvelle échelle à nacelle de la brigade où tu expliques vraiment à travers la vidéo comment celle-ci fonctionne, etc. Ça, c'est le type de contenu qui va être consommé en interne, on va dire, pour permettre la formation et la montée en compétences des équipes.
Non, pas ce style de contenu. Ce style de contenu, c'est vraiment pour informer le grand public des moyens opérationnels que la brigade possède. Pour que la brigade ait une visibilité sur le grand public, ça sert également au recrutement. Nos missions, ce n'est pas des missions secondaires, mais c'est des missions qui sont moins connues par le grand public. C'est également de participer à des contenus vidéo qui permettent de faire évoluer la doctrine opérationnelle, de faire évoluer les manœuvres, l'engagement des secours sur les sinistres, etc.
D'accord. Donc aujourd'hui, c'est nécessaire de filmer et de photographier les interventions pour justement sensibiliser, pour les retours d'expérience dont tu parlais. Donc il y a un vrai... on va dire qu'il y a plusieurs facettes à l'usage de ces images. Ce n'est pas uniquement de la communication pure et dure pour le bureau.
Nos images sont vraiment utilisées donc, pour la communication interne, pour la communication externe, pour les retours d'expérience, pour le devoir de mémoire et ensuite pour aussi fournir des images aux sociétés de production lors de la réalisation de documentaires, lors de la réalisation de films, etc.
Ok, super. Et alors sur la chaîne YouTube de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, on peut voir qu'il y a plein de contenus très différents. J'ai vu que, pour en avoir regardé pas mal, j'ai vu qu'il y avait des grandes catégories, les contenus originaux, les interventions, les créations, les vidéos savoir. J'ai même vu des vidéos qui datent du confinement, je pense, où on voit des petits tutoriels de comment rester en forme pendant le confinement.
Ouais, ouais.
Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces différents contenus? Comment vous les créez? Comment vous décidez de créer ces contenus?
Alors, on travaille en étroite collaboration avec le groupe Réseaux Sociaux, qui, eux, sont chargés de la publication de nos contenus. Mais c'est eux aussi qui font une veille sur les tendances actuelles sur les réseaux sociaux. Donc, c'est eux qui nous dirigent un peu sur ce qu'il faut faire, pas faire. Et ensuite, on a cette chance, c'est qu'on a une grande liberté d'expression dans nos contenus. C'est-à-dire que le commandement... est vraiment ouvert à toute proposition. Et j'ai la chance d'avoir parmi mon équipe du personnel qui a plein d'idées. Les idées, elles fusent en permanence. Il n'y a pas une semaine où je n'ai pas un de mes mecs qui vient me voir et pour me proposer un projet, pour me dire « Ah tiens, j'ai eu cette idée, etc. Tu penses que ça peut le faire ?» Et sincèrement, c'est très rare qu'on nous dise « Ah non, on ne le fait pas, ça ne colle pas. » à notre image ou quoi. Donc, on a cette chance parce qu'on n'est pas frustré et on peut s'exprimer. On peut laisser s'exprimer notre esprit artistique à travers les contenus.
Parce que c'est vrai qu'on pourrait imaginer, comme les sapeurs-pompiers de Paris sont militaires, il n'y a que deux brigades en France qui sont militaires, c'est Paris et Marseille, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, c'est ça.
Et on pourrait imaginer du coup qu'en termes de créativité, justement, ça pourrait être un peu limité. Au final, pas du tout. Donc ça, c'est une chance incroyable.
Absolument pas. Nous, on a des directives de communication qu'on doit respecter. Mais après, ce qu'on fait, c'est que nos propositions, on essaye de les orienter vers ces directives de communication tout en mettant notre petite touche personnelle de créativité, d'originalité, etc. Et au contraire, de sortir un petit peu de ce cadre militaire à travers nos vidéos, ça allège aussi notre image. Parce que bon, certes, on est militaire parce que on a tellement d'interventions à traiter. À Paris, on a quand même des interventions très très particulières. Et le fait d'être militaire, ça nous permet aussi d'avoir un cadre très réglementaire dans l'intervention, dans l'engagement, d'être disponible aussi énormément parce que on fait beaucoup plus de gardes que des pompiers professionnels en province. Et ça, c'est parce qu'on est militaire.
Ok. Ouais. Je ne savais pas du tout. Ok.
Bah oui, puisqu'on a un devoir de disponibilité
qui est plus grand,
à travers notre statut, qui est plus important qu'un civil en province.
D'accord. Ok. Et alors justement, on reviendra sur ces différents contenus sur YouTube, parce que je serais curieux quand même que tu nous parles de certains des contenus originaux qui sont super bien bossés. Enfin, on est vraiment sur du travail cinématographique pour certains contenus, et sur d'autres, sur les interventions. Donc justement, tu me disais tout à l'heure que vous étiez 15 dans l'équipe pour les productions du visuel, c'est ça?
C'est ça. Alors dans les 15, il n'y a pas que des photographes, vidéastes, monteurs. Il y a aussi du personnel qui est dédié à la conservation du patrimoine. C'est ce qu'on appelle la médiathèque chez nous. Et donc, c'est eux qui vont indexer, cataloguer, trier, documenter toutes nos archives. Donc, il y a un gros travail puisque on a des images qui datent d'après-guerre, Seconde Guerre mondiale. On a des photos, des vidéos. On a tous les formats vidéo qui existent, du 8 mm, allumatique, au Betacam, au Beta SP. Enfin, on a tellement de choses que il nous faut du personnel pour préserver ce patrimoine.
Bien sûr.
Alors, c'est du personnel qui est pompier à la base, donc pas forcément formé pour. On s'appuie également sur des stagiaires pour nous aider à conserver au mieux ce patrimoine. Et c'est un patrimoine qui a été oublié pendant de nombreuses années, qu'on essaye de conserver que depuis 4-5 ans. Parce que pendant des années, il a été conservé dans des locaux pas adaptés, etc.
Ah, un peu...
Et moi, j'ai essayé d'orienter mes équipes vers des nouvelles méthodes de conservation. Et on a malheureusement un risque de perdre tout notre patrimoine, notamment vidéo, puisque toutes ces cassettes... on n'a plus de lecteurs pratiquement pour les lire.
Ils n'ont jamais été digitalisés.
Ils n'ont jamais été numérisés. Donc là, on s'efforce tant bien que mal de trouver des marchés pour pouvoir numériser ce contenu. Parce que dans les 5 années à venir, si on ne le fait pas, on va tout perdre. Puisque en fait, il n'y a pratiquement plus de lecteurs pour le faire. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc on fait un maximum. Mais bon, comme je l'ai dit, mon personnel n'est pas formé pour... On n'a pas les moyens humains et techniques pour le faire. Donc, on essaye d'externaliser, mais c'est très compliqué.
Ouais, j'imagine. Sur ton équipe, tu as donc ces personnes-là qui sont dédiées à l'archivage.
Voilà.
Combien tu as après de photographes, de réalisateurs, de monteurs? Comment ça se décompose?
On est deux sous-officiers et le reste, ce sont des militaires du rang, hommes et femmes.
C'est-à-dire?
Alors, en fait, chez les militaires, il y a des catégories de personnel, militaires du rang, sous-officier, officier.
D'accord.
Donc, deux sous-officiers. Moi, je suis le chef de groupe et il y a mon adjoint. Et ensuite, c'est des militaires du rang. Majoritairement, on est tous issus de la compagnie d'incendie, sauf j'ai deux personnels spécialistes que j'ai recrutés pour leur compétences audiovisuelles, puisqu'ils ont fait des études dans ce domaine. Donc, eux, ils font juste une formation militaire de 2 semaines au Fort de Villeneuve-Saint-Georges. Et ensuite, ils intègrent nos équipes. Donc, ils n'ont pas de formation pompier. C'est nous qui les formons après
sur intervention
pour les sensibiliser aux risques du métier.
Bah, c'était justement ma prochaine question. Donc, tu as en grande partie répondu. J'avais vu un petit peu, j'avais mené mon enquête sur l'équipe que compose la brigade. Et j'avais vu que donc, dans l'eau, tu avais en tout cas des alternants qui viennent d'écoles de cinéma. Et donc, du coup, tu as ces profils que tu dis spécialisés. Donc, aujourd'hui, c'est quoi le. Et des pompiers de formation. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est quoi le chemin qu'il faudrait suivre si on voudrait rejoindre ton équipe?
Alors, pour le personnel interne à la BSPP, le chemin, c'est d'avoir déjà des compétences soit vidéo, soit photo. Sachant que moi je recherche quand même plutôt des vidéastes que des photographes, puisque notre travail c'est 90% de production vidéo, et ensuite de postuler, mais malheureusement les places sont très limitées puisque on n'est pas non plus une très très grosse équipe, et que l'équipe en place, avant d'être quelqu'un, un personnel chez moi, avant d'être autonome, il faut compter 2 ou 3 ans parce que on est tous autodidactes. Donc, il faut apprendre, même si on fait de la photo et de la vidéo un petit peu perso, on n'a pas les compétences techniques pour être autonome comme ça dès qu'on arrive. Donc, moi, je compte 2 ans pour un personnel de la brigade, une fois qu'il a intégré mon équipe, pour être vraiment autonome. Et ensuite, donc, pour intégrer l'équipe, si la personne ne fait pas partie de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, quand on a besoin d'un personnel, on met une annonce sur les sites internet.
Et là, c'est la ruée vers...
Alors, je ne vais pas dire que c'est la ruée, mais parce que pendant des années, j'ai eu de grosses difficultés à recruter des spécialistes.
Okay.
Puisque quand je recevais du monde et que je leur présentais le cadre de travail, c'est-à-dire avoir un contrat militaire où on ne peut pas partir comme ça du jour au lendemain, de travailler pour la même institution pendant 5 ans, de prendre des gardes, de travailler les week-ends, etc. Souvent, ça faisait peur d'avoir cette formation à Villeneuve-Saint-Georges, formation militaire. Souvent, ça faisait peur aux gens. Donc, effectivement, ces derniers temps, j'ai beaucoup moins de difficultés à recruter des spécialistes, puisque j'ai énormément de demandes de stages, et souvent les gens, quand ils font leur stage chez nous, qui voient comment ça se passe derrière, ils me demandent s'ils peuvent être recrutés. Là, le dernier spécialiste que j'ai recruté, il a fait 2 stages chez nous avant d'être recruté à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, et là j'ai une demande en attente. Pareil, c'est une stagiaire qu'on a eue pendant quelques mois, et qui, son rêve, c'est de rentrer chez nous en tant que spécialiste.
Génial.
Ouais. Oui, c'est génial, parce que c'est comment d'avoir cette visibilité vers l'extérieur, ça montre que notre travail plaît, donne envie, voilà, et que ça crée des vocations.
Ouais, c'est sûrement pour beaucoup le mélange de 2 passions ou de 2 rêves. La passion de l'image et le rêve d'intégrer une brigade aussi prestigieuse que les sapeurs-pompiers de Paris. Donc, c'est assez incroyable.
Oui, c'est incroyable. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est pas simple de pouvoir entrer chez nous parce que les places sont très limitées. Mmh.
Et donc, du coup, ce que tu disais, c'est que si je comprends bien, c'est que quand on est, par exemple, en réalisateur au sein de la brigade, en fait, on est un peu touche-à-tout. C'est nous qui allons faire le montage. C'est vraiment de...
Oui, alors notre façon de fonctionner, c'est vrai que c'est pas comme une boîte de prod où on a un réal, on a un cadreur, un monteur. Mmh. Nous, on a tellement de demandes à l'année.
Il faut
savoir tout faire. On peut pas, il faut être polyvalent. On ne peut pas être que photographe, que vidéaste. Sinon, je ne pourrais pas répondre à toutes les sollicitations.
C'est ça.
Ouais. Et puis, encore une fois, c'est que tous les jours, je dois avoir un photographe et un cadreur de garde. Toute l'année, tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, s'il fallait que j'ai
un monteur, un photographe, voilà, un
qu'un
cadreur,
mec qui sache faire de la photo, un cadreur, il me faudrait 3 fois le personnel que j'ai actuellement. Voilà, et puis parce que des fois, on va m'appeler, dans 5 minutes, il me faut un photographe pour faire une photo avec le général. Pareil, moi, si ce jour-là, mon photographe,
il n'est pas là,
il faut que le cadreur, il sache faire une photo pour le
Bien
général.
Sûr. Et alors justement, si je dis pas de bêtises, les sapeurs-pompiers de Paris, ça représente pas que Paris, mais c'est Paris et la Grande Couronne.
La Petite Couronne.
La Petite Couronne.
C'est Paris, la Petite Couronne. Voilà. Tout à fait.
Donc c'est quand même une grande zone à couvrir. Tu me dis que tu as tout le temps deux personnes de garde. Comment on décide du coup que ces deux personnes qui sont basées sur une caserne à Paris et il est décidé par... Comment on décide en fait de partir sur une intervention?
Le personnel de garde, nous nos locaux sont situés à l'état-major des pompiers de Paris à Porte de Champerret. Donc le personnel de garde est avec nous. Et en fait, c'est au centre opérationnel, là où ils reçoivent les appels, dès qu'ils ont des notions... d'intervention importante, d'incendie important, ils vont nous appeler. Ils vont nous appeler en nous présentant la situation. Nous, on recueille les informations et ensuite, en relation avec l'officier communication, on décide de partir sur l'intervention ou pas. Alors, il y a plusieurs critères. En général, si par exemple, on sait que c'est une grosse intervention parce que les premiers intervenants ont demandé beaucoup de moyens, bon, ben là, on ne se pose pas de questions, on y va. Mmh. Après, on va prendre en compte aussi, des fois, on va temporiser notre départ parce que la densité du trafic routier à Paris, des fois, nous empêche d'intervenir rapidement. Donc, on sait pertinemment que si on part à 17h de la Petite Couronne, le temps qu'on arrive, l'incendie sera terminé ou l'intervention sera terminée. Donc, tout ça, en fait, c'est grâce à notre expérience de terrain qu'on décide de partir ou pas. Après, il y a des interventions où là, on n'a même pas besoin de se poser la question. On y va parce qu'on sait que l'intervention va durer pendant des heures. Les feux d'entrepôt, les Notre-Dame, etc. On ne se pose même pas la question.
Heureusement, ça n'arrive pas tous les jours non plus. Mais
ça n'arrive pas, oui, tous les jours non plus. Mais on a pratiquement minimum un appel par jour du centre opérationnel pour nous faire partir sur intervention. Parce que tout à l'heure, je disais, on fait 250 interventions à l'année, mais ça, c'est les interventions pour lesquelles on ramène de l'image.
D'accord.
Mais on fait 400 ou 450 départs à l'année.
C'est-à-dire que vous arrivez sur place et en fait,
malheureusement, on arrive trop tard ou les informations que l'on a eues à la base, c'est pas qu'elles n'étaient pas justifiées, mais une fois arrivé sur intervention, ça n'avait pas pris autant d'ampleur que l'on pensait.
Chaque sortie ne donne pas lieu à la création d'un contenu. C'est vous, après, qui revisualisez les images avec toute l'équipe, où tu vas te dire, bon, bah, ça, OK, c'est exploitable, on va faire quelque chose de
Exactement.
Ça.
Exactement. En fait, c'est l'équipe, une fois qu'elle rentre sur intervention, elle décide soit de faire un contenu audiovisuel qui comprend photo et vidéo, soit faire que de la photo.
Okay.
Auparavant, on faisait des contenus séparés, c'est-à-dire qu'on faisait une publication photo et une publication vidéo. Puis on s'est rendu compte que c'était assez redondant. Tout ça, pareil, en relation avec le groupe réseaux sociaux. Et on a décidé de créer un contenu qui comprenait la photo et la vidéo.
D'accord. Justement, d'un point de vue organisation, quand on part sur intervention avec une équipe, comment ça se passe pour vous? Parce que là, du coup, si je comprends bien, vous arrivez toujours après les premiers arrivants, parce que vous n'êtes pas au même endroit, on vous prévient, vous prenez la décision d'y aller ou pas. Du coup, comment vous organisez pour arriver sur place, ne pas gêner les équipes qui sont en train de travailler?
Alors après, on arrive, si on nous prévient dès la prise d'appel, ou dès la demande de moyens du premier chef d'agré, en général, on arrive en même temps que les autres renforts.
Alors, juste pour faire quelques petites définitions, parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant, donc chef d'agré, c'est...
Chef d'agré, ça va être le premier responsable sur l'intervention quand il arrive sur les lieux.
D'accord, donc quand lui arrive sur place avec son équipe, voit qu'il y a besoin de plus d'hommes, de camions,
il va demander des renforts d'engins,
okay.
Donc il y a des renforts préconstitués, renfort incendie, renfort habitation, ou alors ça va être des demandes de moyens au cas par cas.
D'accord. Et donc du coup, dans ce type de cas, là, vous allez arriver en fait en même temps que ces renforts.
Plus ou moins, dépend d'où viennent ces renforts, mais si on est prévenu assez rapidement par le centre opérationnel, oui, on arrive en général en même temps que les renforts.
Ok.
Donc on a cette chance de pouvoir intervenir rapidement. Donc, notre engin est un engin doté de gyrophares, de tons, etc., qui nous permettent d'aller vite dans la circulation. Mais bon, quand le périph' à 17h, il est bouché,
ouais, on peut même à gyro-deux-tons,
ouais. c'est compliqué.
J'imagine.
Et ensuite, donc, on part sur l'intervention, on arrive sur les lieux. Et en fait, notre expérience de pompier, de pompier de terrain qu'on a eu pendant des années en caserne, nous permet de nous engager sans gêner les premiers intervenants. C'est-à-dire qu'on sait où se garer pour pas gêner l'arrivée des engins, pour qu'ensuite ils s'alimentent sur les bouches d'incendie. Dans la cage d'escalier, si c'est un feu d'immeuble, on sait qu'il faut faire attention à ne pas gêner le flux des intervenants. On sait qu'il ne faut pas monter à l'étage au-dessus du sinistre pour ne pas se retrouver bloqué. Enfin voilà, on a quand même cette expérience qui fait qu'on s'engage en toute sécurité.
Okay.
Et puis, parce qu'on a aussi, dans mon équipe, on est majoritairement des pères et des mères de famille, et qu'on ne va pas prendre non plus de risques juste pour une image.
Pour faire une image, ouais, bien sûr. C'est vrai que l'expérience de terrain, elle est très importante, parce que c'est vrai que vous allez savoir exactement, enfin, quand tu arrives sur place, toi, tu sais exactement, bon, bah, là, ils vont dérouler ici.
Ah oui, mais elle est primordiale, déjà, pour faire de l'image, pour savoir qui fait quoi, où se placer, anticiper aussi les gestes de chacun. La connaissance terrain, elle est indispensable. C'est pour ça que dans le groupe, on est majoritairement que des pompiers de formation.
Ah, j'imagine.
Et que je m'appuie que sur quelques spécialistes pour venir compléter nos connaissances et notre technique. Mais on ne pourrait pas avoir
que des spécialistes.
Que des spécialistes,
ouais,
c'est pas possible. Ouais, c'est prendre un très, très, très gros risque.
J'étais en train d'imaginer ça. Je me dis, c'est très compliqué pour un spécialiste qui arrive pour la première fois sur un terrain, sur une intervention. Ça doit être super impressionnant déjà.
Alors, c'est super impressionnant, et puis ils peuvent aussi avoir cette adrénaline qui les pousse à faire des choses très dangereuses, à s'engager là où il ne faut pas, à être absorbé par l'image, absorbé par la flamme. Alors que sur un incendie, ce qui est le plus dangereux, c'est les fumées et pas les flammes. Et donc, si on ne fait pas attention aux fumées, où elles se dirigent et tout, on peut être très vite intoxiqué et être bloqué.
Voilà, ça demande vraiment, au moment en fait, de la captation, d'avoir évidemment un œil à ce qu'on est en train de faire, donc à l'image, pour ne pas être là pour rien, pour capter les bonnes images, mais en même temps, en fait, être super vigilant de tout son entourage, de ce qui se passe autour de soi pour éviter les dangers ou la mise en danger des autres personnes qui sont avec nous, quoi.
Effectivement, et surtout ne pas altérer l'engagement des premiers intervenants. Ça, ouais, c'est primordial. Il faut vraiment que les premiers intervenants ne soient pas gênés par notre présence.
Ouais, ça demande quand même une maîtrise des deux métiers qui est quand même assez importante, parce que c'est vrai qu'on a vite fait d'être la tête dans le moniteur à se dire waouh, c'est incroyable cette image, et puis quand on voit les images que vous tournez, on a vite fait d'être hypnotisé par ces images là donc j'imagine qu'il faut vraiment faire preuve d'une concentration
vigilance.
Et d'une vigilance, ouais, extrême, quoi.
C'est pour ça que au moins une fois par an, on retourne avec mon équipe au centre de formation. On fait des caissons du feu, ce qu'on appelle les caissons, ouais, du feu. On réapprend. On nous redonne aussi la bonne parole, parce que les techniques d'engagement changent, etc. Et donc, on se rapproche des formateurs pour qu'ils nous expliquent un petit peu ce qui a changé par rapport aux autres années. Comment aussi le feu évolue
avec
les nouveaux matériaux.
Alors, juste, tu parlais de caisse d'incendie, c'est ça? Caisson du feu. Je vois ce que c'est, mais si tu peux nous expliquer quand même.
Caisson du feu, en fait, c'est un outil pédagogique. Pour faire simple, c'est un grand conteneur, comme on peut voir sur les bateaux, dans les ports, etc., qui est aménagé pour pouvoir mettre le feu à des palettes et à étudier l'évolution d'un feu en temps réel dans ce conteneur. Donc, les pompiers sont équipés de la tenue de feu et de l'ARI, ce qui nous permet de respirer. Et on regarde l'évolution des fumées, des flammes, en fonction du flux d'air que l'on crée, c'est-à-dire en fermant la porte, en ouvrant une fenêtre. Parce qu'en fait, l'évolution d'un feu va être déterminée en fonction du flux d'air qu'il y aura dans l'environnement.
Ok. Pour revenir un peu côté vidéo, Quand vous partez sur intervention, vous êtes doté d'un, vous avez un parc matériel au sein de la brigade. Vous bossez avec quoi quand vous partez comme ça sur les interventions?
Alors,
vous réalisez des contenus
Sur intervention, on est doté de matériel Canon.
Okay.
Le photographe a des boîtiers 1DX Mark III. Et le cadreur a tout récemment eu le Canon R3.
Ah, super.
Alors, pourquoi avoir choisi ce matériel? Déjà, en photo, on est obligé d'avoir ce type de boîtier, puisque c'est les seuls boîtiers qui tiennent dans les conditions dans lesquelles on intervient.
Bah, c'était justement ma question d'après, parce que comment on fait pour faire des images quand on a un feu gigantesque à ses
Alors,
côtés?
Les boîtiers photo sont très, très résistants. Sincèrement, on reçoit de l'eau, il y a les fumées, la chaleur, l'humidité. C'est en permanence. Nos boîtiers sentent le feu en permanence. Et très sincèrement, on les envoie en maintenance une fois par an, mais il y a très, très peu de casses. C'est franchement des choses minimes à chaque fois. Le matériel le plus sensible, à la rigueur, c'est l'objectif. Puisque l'objectif, dès qu'on va taper dans un mur, taper dans une lance, bah, les lentilles à l'intérieur risquent de se déplacer. Mais bon, mon personnel est assez sensibilisé, fait attention au matériel. Ils savent la valeur que ça a et donc ils font très attention.
Il n'y a pas d'équipement en fait spécifique pour, je sais pas, pour réduire la chaleur?
Non, on a essayé les coques en silicone, on a essayé les housses pour les caméras de point, etc. Et en fait, ça fonctionne pas ou ça apporte rien de plus. Tout ce qui est housse en silicone, etc., au contraire, ça maintient encore plus l'humidité.
Okay.
Donc, à chaque fois, il faut tout enlever pour faire sécher le boîtier. Enfin, c'est pas adapté. Pendant de nombreuses années, on a travaillé avec des caméras de poing et des caméras d'épaule. Et par contre, là, on avait des gros soucis parce que, en fait, les caméras avec les ventilateurs qu'il y a à l'intérieur sont ajourées à plusieurs endroits. Avec les écrans déportés, les écrans LED, en fait, on rencontrait tout le temps des problèmes. Et c'est pour ça qu'on s'est orienté vers des boîtiers pour faire de la vidéo. Et on a continué chez Canon parce que le résultat est plus que satisfaisant. Et là, en plus, ces boîtiers-là nous permettent d'avoir une sensibilité en faible lumière qui est indéniable parce que avec les capteurs grand format, on peut monter les ISO, le capteur est vachement plus sensible.
Ouais, ça,
aux basses lumières et on a une qualité d'image qui est impressionnante par rapport à ce qu'on pouvait avoir auparavant
avec les
caméras de poing ou les caméras d'épaule.
Ouais, parce que au-delà des conditions donc de température ou d'humidité, c'est vrai que ça vous arrive souvent d'intervenir la nuit et il faut être tout le temps prêt. Vous n'allez pas arriver avec les projos, des chefs électro qui vous éclairent.
Non, alors on n'a rien qui nous éclaire. Effectivement, c'est beaucoup la lumière ambiante, et c'est ce qui donne aussi cette magie à nos images. Hein. Mmh. C'est de travailler sur cette lumière ambiante, que ça soit les lumières de la rue, les lumières de flammes, les lumières des projecteurs de l'intervention quand il y en a, ou des lumières de casque.
Mmh.
Nous, on est équipé de lumières, on a une lumière sur notre casque, on a une lumière sur la poitrine, donc on va s'aider de ça aussi pour s'éclairer.
D'accord.
Mais on va beaucoup, beaucoup utiliser la lumière ambiante.
Mais c'est des lumières, alors celle du casque, c'est pour tout le monde, celle sur la poitrine, c'est pareil, c'est pour toutes les équipes, ou c'est
non.
Spécifiquement pour vous, dans le but de la vidéo?
Alors, c'est une lampe qui est dédiée normalement aux équipes d'exploration longue durée. Donc, c'est des équipes qui sont formées à des explorations très intenses, de longue durée, dans des conditions extrêmes, etc. Ils ont ces lampes-là, pareil, sur le torse.
Okay.
Et moi, j'ai réussi à en avoir pour nos équipes, pour pouvoir avoir... parce que c'est des lumières qui éclairent énormément. Donc, ça nous permet d'être mieux éclairés. Parce que le photographe, souvent, il s'aide du cadreur qui, lui, a une petite minette sur son boîtier pour pouvoir faire la mise au point. Parce que le photographe, lui, il a son flash, mais pour pouvoir faire la mise au point, il faut qu'il ait un minimum de lumière. Et des fois, s'il ne s'aide pas du cadreur qui est à côté, il n'y arrive pas.
Ouais,
c'est pour ça qu'on s'est doté de lumières supplémentaires pour
okay.
pouvoir faire des fois la mise au point. Donc, des fois, on a une main qui oriente la lampe dans une direction et on a l'autre main qui tient le boîtier pour pouvoir faire la mise au point.
Justement, donc là, tu nous parles du matériel sur les interventions. Vous faites aussi du contenu, quand on regarde votre chaîne YouTube, du contenu où là, on est vraiment sur de la créa, je veux dire, cinématographique, dans le sens où il y a un travail de lumière, de mise en scène, etc. Là, c'est le même matériel que vous utilisez. C'est quoi un petit peu le...
Alors, on travaille toujours chez Canon, mais on a également des C100 et C200. On a des R5. Donc, en fonction de la production que l'on réalise, on va s'orienter vers tel ou tel matériel. Okay. En général, tout ce qui est reportage, on va utiliser les C100, C200. Et tout ce qui est réalisation de clips, de spots, d'événements sportifs, etc., on va plus utiliser le R5 que l'on va mettre sur des stabilisateurs.
Ouais.
Puisque les C100, C200, pour les mettre sur les stabilisateurs,
c'est compliqué,
c'est trop gros. À chaque fois, l'œilleton, il vient buter sur quelque chose. Enfin, alors que le R5, il s'adapte très bien. Et pour la réalisation de clips ou d'événements sportifs, c'est génial parce qu'on fait des super images avec.
Et ça arrive à tes équipes de partir sur les interventions avec des stabilisateurs, donc des Ronin, des DJI
Non, on n'en est pas là. Il faut, pour ne pas gêner les équipes, qu'on ait
le plus léger possible,
des choses pas très encombrantes. Comme ça, dès qu'on va gêner une équipe qui est en train de monter les escaliers, il faut qu'on arrive à se plaquer contre le mur et à ne pas les gêner. Si on commence à avoir stabilisateur et tout, quand vous êtes dans une cage d'escalier qui fait 1 mètre de large, qui a déjà deux tuyaux d'établi, qu'il y a les équipes qui montent, qui descendent, les victimes aussi qu'on est en train de descendre, vous imaginez bien qu'on ne peut pas se permettre d'avoir du matériel.
Oui, il ne peut pas y avoir 10 personnes avec les caméras, les lumières, la perche.
Déjà, le photographe, lui, il a deux boîtiers, puisque deux boîtiers, ça lui permet d'avoir deux objectifs et de ne pas changer d'objectif durant l'intervention. Parce que si on commence à changer d'objectif durant l'intervention, ça veut dire humidité, poussière, fumée qui va rentrer sur le capteur.
C'est
impensable. Et le vidéaste, lui, il a un objectif qui a une focale un peu plus importante qui va lui permettre de faire ses images juste avec un objectif.
Et alors, je sais que tu es aussi pilote de drone. Toi, c'est uniquement dans le cadre de la communication
Alors, moi, c'est que dans le cadre de la communication. Donc, en 2017, mon équipe, on a décidé de développer les drones au sein du bureau communication. Donc, on a été formé à l'école de l'armée de l'air à Aix-en-Provence.
C'est une bonne école pour apprendre à piloter des drones pour
faire
des images.
Oui, carrément. Donc, un stage de 1 mois, 2 semaines de pratique, 2 semaines de théorie. Ensuite, on a passé les examens
de
la DGAC,
de
télépilote drone. Et ensuite, on a développé notre flotte de drones en interne. Donc, on a travaillé avec des Fantômes, des Mavic et de l'Inspire. Et ensuite, c'est développé les drones, ce qu'on appelle les drones opérationnels. Donc ça, c'est le bureau études pilotage qui a développé cette capacité opérationnelle. Donc, il y a eu une expérimentation qui a duré 1 an et demi, 2 ans. Et ensuite, depuis septembre 2021, ces drones ont été affectés au groupement appui et de secours avec une équipe opérationnelle 24 heures sur 24, pareil, pour se rendre sur intervention et faire voler les drones. Et eux, leur mission, c'est du renseignement opérationnel. C'est-à-dire qu'ils vont venir en appui du poste de commandement pour voir comment le feu évolue, éventuellement détecter des victimes positionnées sur les toits, etc., pouvoir aller les chercher. Donc, c'est vraiment deux missions différentes. On travaille quand même avec eux assez régulièrement parce que on forme les télépilotes, ont pratiquement la même formation.
Bien sûr.
Encore hier, on a été faire une formation de maintien des acquis avec eux sur le terrain. Même si on n'a pas les mêmes missions, on est en étroite collaboration, on fait pratiquement les mêmes formations. Mais c'est bien deux choses différentes. Nous, au bureau communication, on ne fait pas voler les drones sur intervention. Ce n'est pas du tout notre mission. C'est tellement difficile de faire voler les drones sur Paris. Eux, ils ont des protocoles bien particuliers pour pouvoir intervenir sur intervention sans autorisation de la préfecture de police. Alors que nous, on est soumis aux mêmes règles que les personnes civiles.
Ouais, que n'importe quelle boîte de prod.
Voilà, on fait nos autorisations auprès de la préfecture de police, on fait nos autorisations auprès des services aériens, avec les délais prévus, etc.
Ouais,
on ne fait jamais voler les drones. Même si on est pompier de Paris, on ne fait jamais voler les drones sans autorisation.
Bien sûr. Donc du coup, c'est parce qu'il me semble que dans certaines des vidéos qui sont accessibles sur YouTube, sur la chaîne des pompiers de Paris, on voit des images de drones pendant des interventions. Ça, en fait, c'est des images qui sont récupérées de l'autre brigade.
Effectivement, en fait, quand on est sur intervention, on se côtoie, pareil, on est en relation permanente. Ils nous envoient leurs images que derrière, on peut exploiter lors des vidéos.
C'est vraiment super intéressant. Je trouve ça formidable comme boulot, et c'est une vraie nécessité en plus d'avoir ce travail d'image au sein des pompiers.
Ah ben c'est primordial. Sans ces images-là, on ne ferait pas évoluer les choses aussi rapidement. Ouais. On ne pourrait pas avoir des retours d'expérience comme on peut le faire actuellement. Enfin, l'image au sein des pompiers en général est indispensable.
C'est quelque chose qui est classique chez les... Enfin, il y a d'autres brigades comme la tienne au sein des...
Alors,
différents...
ça tend à se développer, mais pour pouvoir couvrir toutes les interventions, pour pouvoir renseigner autant, il faut avoir les moyens humains et techniques. Nous, on a la chance à la brigade d'avoir ces moyens humains et techniques, mais ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas donné à tous les services départementaux d'avoir ces moyens humains et techniques. Surtout que en province, les services départementaux ont un secteur encore plus vaste que le nôtre. Donc, pour pouvoir intervenir rapidement sur une intervention, des fois, ils vont devoir faire 50, 60 kilomètres.
Ouais, c'est compliqué.
Et
ouais.
Bon, même en province, si le trafic routier est peut-être plus simple, c'est pas simple. Mais effectivement, ça tend à se développer. Il y a des services départementaux qui ont des bureaux communication.
D'accord. Qui commencent à faire de l'image,
qui commencent à bien se faire connaître sur les réseaux sociaux. Et parce qu'ils voient que c'est... Enfin, je pense qu'ils se rendent compte que c'est une nécessité. Quand ils se rendent compte de ce que nous, on peut faire, ce que ça nous apporte, etc., c'est indispensable.
Puis à Marseille, ils ont une brigade ou pas
Oui, les marins-pompiers de Marseille ont une équipe avec qui on est en très bonne relation. On a déjà échanges.
Vous bossez un peu ensemble.
Ouais, on a déjà fait des échanges. Alors, c'est pas tout le temps parce qu'il faut avoir du temps pour pouvoir faire des échanges. Mais ouais, les marins-pompiers de Marseille, c'est un peu nos cousins, quoi. C'est souvent, même sur les réseaux sociaux, on fait des posts, on leur lance des petits défis. Quand il y a des matchs de foot ou des trucs comme ça, on a toujours le petit mot pour leur faire un petit coucou. Là, dernièrement, ils nous ont lancé un défi pour la journée avec nos blessés du 26 juin. C'est une journée qui est dédiée aux blessés de l'armée. Et ils nous ont lancé un petit défi sportif. Donc, on a répondu à ce défi en filmant. On a été tourné lundi dernier ce défi à la caserne de Masséna. Et ça va être publié ce week-end, je crois.
Ouais.
Bon, donc pour répondre à ce challenge.
Ouais, j'ai vu même que vous avez fait des vidéos avec les forces spéciales. Enfin, il y a les différents corps de l'armée. Au final, les différents bureaux de communication, j'imagine, communiquent entre eux pour créer du contenu.
Oui, effectivement, on a eu cette idée d'inviter du personnel d'unités d'élite. Puisque la brigade est une unité d'élite, de les inviter pour participer avec nous à un défi sportif. Alors, l'idée, ce n'est pas du tout de se mettre en concurrence, ce n'est pas du tout de dire « moi, je suis plus fort que toi ».
On ne voit pas d'ailleurs qui gagne ou pas. Ce n'est pas le but de la vidéo. Ouais.
Le but de la vidéo, c'est de montrer qu'on est en permanence des frères d'armes, que ce soit sur intervention, mais également à l'extérieur, dans l'entraînement physique, etc. Et de montrer que l'engagement physique, les conditions physiques sont à peu près identiques dans chaque unité d'élite.
Ouais. Alors du coup, pour revenir un peu sur tous les contenus, toi, il y a un contenu qui t'a particulièrement marqué ou que tu as... Alors c'est un peu étrange de demander est-ce qu'il y a un contenu que tu as aimé faire, parce qu'à chaque fois, la plupart sont des contenus sur des interventions, donc c'est pas des trucs très joyeux. Il y a quelque chose qui t'a marqué d'un point de vue peut-être image, en tout cas.
Alors, ce qui a pu me marquer durant ma carrière au sein du groupe Image, c'est les attentats. Alors, ça a été peu visible par le grand public parce que on n'a pas besoin de communiquer là-dessus. Les médias le font très bien à notre place. Mais nous, par contre, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur ces images, sur ces prises d'appel, pendant peut-être 2 ans. On nous a demandé en permanence des bancs d'éléments, des retours d'expérience. Donc, à chaque fois, on ressortait les images, on retravaillait dessus, on retravaillait sur les prises d'appel que le centre opérationnel avait reçues. Et ça, je pense que ça a été très compliqué pour tout le monde. C'est-à-dire que même quand on ne travaillait pas dessus, le monteur qui est en station de montage, on l'entendait. Donc, effectivement, c'est... Je pense que sur l'ensemble de mon équipe qui ont vécu ça, c'est ce qui nous marquera à vie.
Ouais, c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est un métier dans l'image qui est passion, qui est souvent rattaché à des choses belles, de fiction. Voilà, c'est des projets. C'est vrai que là, le métier d'image que tu fais au sein de la brigade avec toute ton équipe, il est en fait extrêmement dur parce qu'il est en direct avec les interventions et avec du coup ce qui se passe, quoi. Donc c'est...
Ouais, alors c'est dur, mais voilà, toutes les interventions courantes que l'on peut faire, les incendies, même quand il y a des victimes, les accidents de circulation, etc., c'est des choses que l'on fait depuis des années. On a été formés pour. Donc j'ai envie de dire, même si c'est choquant, que c'est malheureux, on a un certain recul qui nous permet de pas tout prendre à cœur. Par contre, les attentats, c'est vraiment des choses auxquelles on n'était pas préparé. Là, on était vraiment sur un théâtre de guerre, et nous, ça, on n'est pas formé à ça.
Ouais.
Donc, c'est pour ça que c'est vraiment, je pense, la seule intervention qui nous marquera à vie. Vous prenez Notre-Dame. Effectivement, l'intervention était extraordinaire, était une intervention que très peu de pompiers verront un jour dans leur carrière. Mais voilà, ça, il n'y a pas eu de perte humaine et ça sera jamais comparable à des attentats.
Ouais, c'est vrai que c'est une question qui était bizarre. J'hésitais à te la poser parce que je me dis c'est...
Non, après, il y en a plein d'autres, hein, des interventions. Moi, souvent, quand on me demande quelle intervention m'a le plus marqué, je ne parle pas de Notre-Dame. Je vais parler d'un incendie, la rue Erlanger. Il y a eu aussi, bon, moi, j'y étais pas, mais il y a eu la rue de Trévise où on a perdu des camarades. Voilà, à partir du moment où ça touche l'humain, ça touche les camarades, ça, c'est ancré en nous, ça sera jamais, c'est ineffaçable. Quoi,
ouais. Ah, c'est vrai que c'est là où c'est compliqué et je vois mes questions sont pas forcément très finement écrites parce que justement je suis tellement habitué à discuter avec des pros de l'audiovisuel fiction qu'en fait c'est quoi le souvenir le plus incroyable c'est des choses qui sont faciles parce que mais c'est vrai que t'as beau faire le même métier, tu le fais au sein des pompiers de Paris, ça n'a rien à voir. C'est quoi du coup la règle d'or ou les règles d'or, je sais pas, quand on est sapeur-pompier de Paris dans l'image, il y a des règles un petit peu très importantes. J'imagine déjà le respect de l'uniforme comme on va avoir quand on fait partie de la brigade. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier quand on est dans le service communication
Ah non, il n'y a pas de choses qui changent d'un autre poste à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Moi, j'ai la chance d'avoir... Moi, je considère un peu mon groupe comme un petit centre de secours parce que j'ai un engin à armer avec un photographe et un vidéaste tous les jours. Donc, j'ai ce côté opérationnel qui est le quotidien des unités opérationnelles. Tous les jours, on fait un petit rassemblement entre nous, comme en caserne, pour passer les consignes entre la garde montante et la garde descendante. Tous les jours, on a la vérification du matériel comme le font les premiers intervenants. Voilà, donc pour le coup, j'ai...
C'est le même fonctionnement.
Enfin, moi, je sais que j'ai instauré ce fonctionnement-là parce que à partir du moment où on s'engage sur intervention, on prend les mêmes risques et donc c'est, on n'a pas un travail sédentaire.
Ouais.
On intervient sur les interventions, il faut que notre détecteur d'immobilité il fonctionne parce que s'il nous arrive quoi que ce soit, il faut qu'on arrive à nous retrouver sur l'intervention. Il faut que notre masque soit propre et que les filtres soient toujours opérationnels pour pas respirer toutes les cochonneries qu'il peut y avoir sur l'intervention. Il faut que notre boîtier, pareil, soit opérationnel parce que si on arrive sur une intervention et que on n'a pas de batterie, notre carte mémoire est saturée ou quoi que ce soit, notre objectif est sale, bah on revient avec des images ou pas d'images. Mmh. Donc ça, c'est pas acceptable. Notre fonctionnement ne change pas
D'une brigade classique.
D'une brigade classique. Quoi.
Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à une personne qui souhaiterait rejoindre l'équipe image des sapeurs-pompiers de Paris?
Alors déjà, bah, d'être patient.
Il y a du monde à la porte.
Il y a du monde à la porte. De se faire connaître auprès de moi ou de mon adjoint ou de mes équipes, surtout d'être polyvalent. Moi, je recherche des vidéastes, des monteurs, des photographes, mais il faut savoir tout faire. Le mec qui se dit, la personne qui se dit je vais faire que de la photo au groupe image, il a tout faux. Mmh. Il a tout faux parce que il faut être polyvalent, on a tellement de demandes. Il faut aussi savoir accepter tout type de mission, parce que même si on a cette liberté d'expression dans la création de notre contenu, on répond aussi à de nombreuses sollicitations qui sont pour quelqu'un qui aime l'image des fois un peu simple, trop institutionnelle, on va dire. Mmh. Mais c'est notre mission aussi principale, hein, c'est de renseigner l'institution quand il y a des événements. Institutionnel, donc c'est des choses très protocolaires. Mais moi, je pense que si la personne est passionnée, ça aide aussi à travers ces événements-là de se faire plaisir, d'apporter de nouvelles choses, d'avoir une nouvelle vision de l'image. Pas se dire, ouais, bah, je vais faire une cérémonie, c'est tout le temps, toujours les mêmes. Non, c'est faux. C'est. Effectivement, le protocole de la cérémonie reste le même. C'est identique à chaque fois, mais quelqu'un qui est passionné, il va aller chercher
la différence. Il y a toujours moyen de faire quelque chose de différent.
Ouais. Ouais, donc, il faut vraiment être passionné, jamais tomber dans la routine, toujours s'intéresser à ce qui est fait sur les réseaux sociaux ou dans les médias pour justement proposer de nouvelles choses, parce qu'on a cette chance, encore une fois, de pouvoir avoir cette liberté d'expression. Que dans certains métiers, on n'a pas. Que nous, le mec, il peut tout faire de lui-même. Il peut penser, réaliser, monter. Et ça, je pense que c'est une richesse. Alors, ça demande beaucoup d'investissement, ça demande beaucoup de temps. Effectivement, des fois, ça nous bloque en termes de réalisation parce qu'à devoir tout faire, bah, forcément, on ne peut pas mettre. Enfin, on ne peut pas être bon partout.
Oui, bien sûr.
Mais c'est une chance, je pense, de pouvoir toucher à tout.
C'est clair. Et en dernière question, est-ce que y a une référence, un livre, une vidéo, quelque chose dans le monde de l'audiovisuel qui t'a marqué et que tu conseillerais?
Donc dernièrement, j'ai été voir le film Coupé de Michel Hazanavicius,
ouais.
Avec Romain Duris et Bérénice Bejo.
Ouais.
Et en fait, j'ai adoré ce film de par son originalité déjà. Mais en plus, parce que je me suis un peu vu avec mes équipes des fois sur des tournages. En gros, pour reprendre un peu la genèse.
Attention
du film.
À ne pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu.
Ah ouais, je ne vais pas spoiler. Mais... Bon, je vais éviter d'en parler. Mais voilà, moi, ça m'a beaucoup fait rire. Ce film, c'est un plan séquence. Et on a réalisé un plan séquence récemment, là,
ouais.
Qui n'a pas encore été diffusé. Et quand je vois comment on a galéré pour faire un plan séquence de. D'une minute trente, deux minutes max, ça m'a bien fait rire. Et puis, ce film montre aussi l'envers du décor de la réalisation d'un film à petit budget, avec des acteurs en plus géniaux. Quoi. Mais franchement, j'ai adoré ce film. Je m'attendais pas du tout à ça.
Ok, c'est le conseil alors.
Super. Ouais, le petit conseil, là, tout frais, parce que je crois qu'il est encore en salle.
Oui, il vient de sortir. Alors après, je ne sais pas quand sortira cet épisode, donc peut-être qu'il ne sera plus en salle. Mais bon, il sera disponible après en SVOD ou autre. Donc,
ouais, c'est prochainement, là, c'est fin juin.
Ça sera rapide, ouais. Parfait. Bah, merci beaucoup, Benoît, en
merci
tout cas, d'être venu jusqu'à nous pour nous raconter tout ça. C'était super intéressant.
Avec grand plaisir.
Et puis, bah, j'espère que ça va peut-être créer des vocations. Tu me diras si tu reçois des demandes après la diffusion du podcast.
Ok, super, merci.
Merci beaucoup. Ciao.
Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux chaque semaine. Si cet épisode vous a plu, laissez un avis sur Apple Podcasts ou Spotify, cela nous aide énormément. Au générique revient dans 2 semaines avec un nouvel épisode. D'ici là, je vous souhaite un très bel été et vous dis à très vite.